Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 3 octobre 1991.
Le philosophe. exemple, vous allez comprendre. On justifie sa position. On monte. Yeah. agit à partir de rien. On peut agir à partir de rien, mais on ne critique pas rien. On critique toujours quelque chose qui existe. Je crois que ça, c'est élémentaire, c'est du bon sens, si vous voulez. Critiquer le néant, allez-y, critiquer le néant. Le néant ne répond pas, c'est l'avantage, alors vous pouvez y aller. Vous critiquez une connaissance, vous critiquez une œuvre. Quand vous entrez, maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais dans le temps il y en avait, on entrait chez un artisan. Prenez un artisan, un ébéniste. sur la philosophie. Alors, ça, c'est très simple. Vous niez que la philosophie existe. Vous êtes agnostique. Quand on est agnostique, on dit la philosophie. On dit que l'intelligence est capable d'atteindre la vérité. À ce moment-là, tout est détruit, c'est plus la peine. Plus la peine d'en parler. Laissez les agnostiques dormir paisiblement. Puis ils attendraient. Pas la peine de discuter avec un agnostique qui nie tout. Moi, s'il nie tout, elle m'a nié tout, c'est tout. Moi, j'ai autre chose à faire que de discuter indéfiniment avec un agnostique. Il nie. Alors, vous pouvez, qu'en attitude chrétienne, l'aimer et par l'amour montrer que l'amour est quelque chose de positif. Et par l'amour, vous pourrez peut-être lui redonner le sens de quelque chose qui est positif. Que quand même, tout en niant, il parle. Alors, si la connaissance n'est rien, mais il n'a qu'à se taire. Oui, c'est le serpent qui mord sa queue. Il parle. S'il a le besoin de parler, ça prouve qu'il croit que sa parole a quand même quelque chose d'efficace et qu'elle signifie quelque chose, autrement il se tairait tout simplement. Donc l'agnosticisme pur est une position insoutenable. Il n'a qu'à rester dans le silence à garder ses vaches. Il n'a que ça à faire. L'agnostique. Il peut dialoguer avec personne, puisqu'il n'y a pas. La négation poussée jusqu'au bout. Ça existait, c'est une position anti-philosophique. L'agnostique. Il nie la capacité d'intelligence à atteindre la vérité. Si la philosophie, c'est la recherche de la vérité, l'agnostique nie. Donc il y a eu des agnostiques, il y en aura tout le temps. Il y aura tout le temps des agnostiques. Donc je prends la position seconde de la philosophie, de la critique d'une philosophie à l'intérieur de la philosophie. La critique, elle existe chez Aristote. Aristote constamment prend des positions critiques. Alors, quelle est cette position critique première d'Aristote? C'est parce que l'intelligence a la capacité de réfléchir sur ce qu'elle fait. Il y a une auto-lucidité de la connaissance. L'intelligence est auto-lucide. Et parce qu'elle est auto-lucide, elle a le rétro. Elle peut regarder le chemin qu'elle a parcouru. Et le chemin qu'elle a parcouru est toujours présent. Oui, on regarde le point de départ de la métaphysique. Mais le point de départ de la métaphysique est toujours présent dans la philosophie. Même si j'étais très loin, le point de départ est toujours présent. Parce que c'est l'esprit. On n'est pas dans la matière. Et donc, c'est présent toujours. C'est ça l'auto-lucidité de l'intelligence. C'est parce que l'intelligence est spirituelle. C'est parce que l'intelligence est au-delà de la matière. Parce que l'intelligence n'est pas quantitative. Alors, elle a cette capacité merveilleuse de faire que le point de départ est toujours présent. C'est parce que le point de départ est toujours présent que je peux réfléchir sur ma propre connaissance et regarder l'itinéraire que j'ai parcouru. Chez Aristote, on voit déjà cette attitude réflexive d'une intelligence qui sait le parcours qu'elle a fait. Voyez la naissance d'une méthode. Méta-odos. Odos, c'est la voix. Méta-odos, c'est la voix avec moi. C'est ça la méthode. Je sais le chemin que je dois parcourir. Et la méthode m'aide à voir ce chemin que je dois parcourir. J'ai parcouru un chemin. Le début du cours et la fin du cours. Je parcours un chemin. Et j'ai possibilité de réfléchir sur ce chemin que j'ai parcouru. Mais la critique n'existe que s'il y a auto-réflexion. Réflexion sur le chemin qu'on a parcouru. Condition sine qua non pour qu'il y ait la critique. Ce n'est pas la critique, mais c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait la critique. S'il n'y avait pas cette auto-réflexion, il n'y aurait pas de critique. Il y aurait l'instinct. Ah, j'ai fait ça spontanément. n'ose pas, et les autres les voient. Et la caricature consiste à mettre ce geste instinctif en pleine lumière. C'est très curieux, vous voyez. Et là, on voit très bien, le geste instinctif n'a pas d'autoréflexion. Tandis qu'au contraire, un acte volontaire, on est conscient. Parce qu'on est conscient de son acte d'intelligence et de sa réflexion, la critique peut exister. Chez Aristote, la critique est présente, constamment, mais s'il ne distingue pas sa philosophie et sa critique. Il chemine avec intelligence. Mais c'est exactement comme quand vous faites un parcours dans un pays inconnu. De temps en temps, vous faites le point. Le bateau qui est sur la mer, de temps en temps, fait le point. Il s'arrête, il fait le point. Ou il continue, mais il fait le point. Il s'arrête dans sa pensée. Il fait le point. Voir exactement où l'on en est. Si on a une carte, on essaiera de voir exactement où l'on en est. Vous voyez, quand vous êtes avec un petit coucou, hein, un avion, et que vous avez la carte à côté du pilote, vous essayez de faire le point. Où est-ce que vous en êtes, là ? Vision aérienne, alors très dépaysante. Hein. Parce que il n'y a pas de poteau indicateur très grand, mais dans Angoulême. Non. Mais vous devez découvrir que. Alors quand vous connaissez l'avance, vous reconnaissez, mais quand vous ne connaissez pas du tout, c'est très déroutant. Vous voyez cette auto-réflexion qui se fait de plus en plus avec netteté. À un moment donné, c'est Kant. Kant a dit la critique est antérieure à la philosophie. C'est très intéressant de voir ça. À ce point de vue-là, on dira que Kant est le père de la critique. C'est pas vrai. La critique a existé avant Kant. Mais Kant est celui qui a dit que la critique était antérieure à la philosophie. Antérieure à la métaphysique. Parce que c'est antérieur à la métaphysique, c'est ce que Kant cherche. Kant, au point de départ, était dans une métaphysique de Wolf. Il a accepté cette métaphysique. Puis à un moment donné, il a vu que la métaphysique de Wolf ne collait pas avec la science moderne. Donc il la rejetait. Et il a essayé de découvrir une critique qui permettrait de fonder une philosophie première, une métaphysique, qui pourrait être acceptable à la pensée scientifique. Pour lui, c'est la physique moderne qui sert de mesure, la physique expérimentale qui sert de mesure à toute connaissance. Et la métaphysique de Wolf n'était pas justement capable de répondre à cela. D'où recherche d'une critique. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une pensée soit juste, pour qu'une métaphysique soit juste? Oui, donc on fait, avant de penser métaphysiquement, on a un cadre, on a une idée, un modèle. On forge ce modèle. On verra ensuite comment arriver à ce modèle. Pour Kant, la critique est antérieure. Il faut voir pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Parce que là, Kant est très révolutionnaire, si j'ose dire, par rapport à une pensée traditionnelle. Une pensée traditionnelle qui était représentée par Wolf, qui n'était pas du tout la métaphysique d'Aristote, qui n'était pas du tout la philosophie première d'Aristote, qui était une philosophie dépendante des idées, l'idée d'être, qui était première. Et Wolf a construit toute sa métaphysique de cette manière-là, à partir des idées. Donc c'était pas du tout le jugement d'existence. De sorte que la critique que fait Kant sur Wolf est très juste. Mais l'erreur problème s'est posé, et le problème se pose, la métaphysique est-elle antérieure à la critique, ou la métaphysique repose-t-elle sur la critique? C'est le premier problème que nous devons regarder. Et ça, c'est un problème qui s'est posé à partir de Kant, et qui demeure. Parce que je ne peux pas gommer Kant. Kant a existé, et les Kantiens existent encore maintenant. Il y a une école kantienne qui gagne du terrain, c'est très très curieux. En Allemagne, les Kantiens, c'est les traditionalistes. Comme si c'était la pensée la plus traditionnaliste qui soit. Mais on est toujours traditionnaliste par rapport à d'autres. Et la pensée moderne, évidemment, est anti-kantienne. Quel est celui qui a attaqué le plus Kant? C'est Hegel et Nietzsche. Alors Nietzsche, c'est un poulet rouge. Voilà, la manière dont Nietzsche traite Kant, c'est bon à lire de temps en temps, parce qu'à partir de là, on ne peut plus être kantien. Il nous libère de Kant, Nietzsche. Complètement. C'est absurde. Et c'est vrai, c'est absurde. Il y a une absurdité dans Kant. C'est ça qu'il faut saisir. Pour se libérer de Kant, il faut s'en libérer complètement, parce qu'on est tous un peu kantiens. Mais la force de Kant, c'est qu'au fond, il met la négation avant l'affirmation. Ce qui, je crois, est le caractère qu'on pourrait dire de toute modernité. Toute modernité met la négation avant l'affirmation. Et quand je dis toute modernité, je veux dire ceux qui, au fond, n'acceptent pas pleinement une pensée réaliste. Je vais m'expliquer pour que vous compreniez bien. Là, on touche un problème très, très... On le reverra, du reste, en critique. Mais je le pose maintenant, rapidement. Je peux affirmer et nier. Ceci est, ceci n'est pas. Qu'est-ce qui est premier? Ceci est ou ceci n'est pas? C'est intéressant de savoir ça. Qu'est-ce qui est premier? Bon, tous, spontanément, on répondrait selon le langage. Ceci n'est pas ajoute quelque chose à ceci est, donc il présuppose ceci est. Quand Sartre entre dans le café, il dit « Pierre est-il dans le café ?» Sartre avait une idée, Pierre devait être dans le café. Or, Pierre n'est pas dans le café. Donc, la négation. Mais cette négation n'est pas première. Il avait dans l'idée de rencontrer Pierre. Quand vous cherchez quelqu'un et vous savez qu'à 8h30, il se trouve toujours au Café des Fleurs. Donc, il veut le retrouver là. Et puis, il arrive un peu en retard. Pierre est-il là? Non, il n'est pas là. Vous voyez, la négation présupposait une affirmation. Cette affirmation, je veux le trouver. L'intention. Donc, dans le langage, c'est très net. La négation est seconde. Elle ajoute quelque chose à l'affirmation. Mais est-ce que le langage, ici, reflète exactement la pensée? Je vous avais dit tout à l'heure, ceci est. Ceci n'est pas. Ne reflète pas entièrement la pensée. Parce que dans le ceci est, le verbe être est relatif au nom. Dans la pensée, c'est le nom qui est relatif au verbe. Alors, est-ce que j'ai le même tour ici? Est-ce que je dois dire que dans le langage, la négation est seconde? Mais dans la réalité de ma pensée, la connaissance négative est antérieure à la connaissance affirmative. Oui. Ça, c'est un petit problème extrêmement intéressant. Ça oblige de réfléchir. pas là. Est-ce que je pense d'abord négativement ou est-ce que je pense d'abord positivement? Le langage est net, mais le langage peut trahir. Le langage est de l'ordre de la communication. Le langage est second. Il n'est pas adéquat à ma pensée. Donc ici, il faut réfléchir sur ma propre pensée. Au-delà du langage, je peux le faire. Je peux très bien penser au-delà du langage. Quand je dis ceci est, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence qui affirme l'existence d'une réalité qu'elle expérimente. C'est l'intelligence en liaison, en relation avec une réalité qui est autre que l'intelligence. Ceci est. Quand l'intelligence dit ceci n'est pas, c'est l'intelligence qui, après cette petite enquête, est obligée de dire ce que j'ai affirmé dans ceci est n'est pas vrai. Donc ceci n'est pas. Alors, je comprends que ma connaissance est d'abord relative à la réalité. Mais je peux très bien ne pas avoir rencontré cette réalité. Et je pose ça comme une interrogation. Est-ce qu'il est là? Est-ce que Pierre est là? Est-ce que ceci existe? Ceci, la vache. Ceci, Pierre. Est-ce qu'il existe? Et puis je dis non. Voyez, la négation naît à partir d'une hypothèse. La négation ne nie pas à partir d'affirmation. Non. L'affirmation, c'est quelque chose d'absolu, ceci est. Vous n'allez pas découvrir à partir de ceci est la négation. Puisque ceci est, c'est suffisant. Mais si vous posez Pierre est-il là? Hypothèse. Ceci existe-t-il? Hypothèse. Vous pouvez à ce moment-là dire oui ou non. Mais pour pouvoir dire non, il faut qu'il y ait l'hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que mon intelligence est capable de penser le possible. L'intelligence pense le possible. Ceci peut exister. La vache peut exister. On m'a dit qu'il y avait des vaches en France. Est-ce que ça existe? Je viens à Paris, je n'en ai pas vu. Et je dis donc, la vache n'existe pas. Elle existe en tout en Hollande. Alors en Hollande, je vais en Hollande pour voir la vache. Ça m'intéresse, comme vous. Je viens de la Lune. J'ai jamais vu de chat vache. Alors est-ce que ça existe? On en a parlé dans le temps. Cet animal très curieux. Merveilleux. Ce qui donne du lait, c'est extraordinaire. C'est un animal donateur de lait. La terre promise, là où coule le lait, c'est la vache. Extraordinaire. Vous voyez, il y a une hypothèse, il y a une idée. C'est très curieux. Alors c'est ça qui est intéressant à voir, que la négation naît à partir d'une hypothèse. Je ne peux nier qu'à partir d'une hypothèse. Ceci n'est pas. Une hypothèse où je me suis posé la question si cette idée, parce qu'une hypothèse c'est une idée, c'est une réalité possible. C'est le possible. Le possible existe ou n'existe pas. Il est ou il n'est pas. Et je dis il n'est pas. Donc à partir de l'hypothèse, je t'ai dit ceci n'est pas. Mais pour pouvoir dire ceci n'est pas, il faut voir que le possible existe ou n'existe pas. la négation se fait à partir d'une hypothèse, qu'il faut l'hypothèse pour que la négation existe. Mais l'hypothèse elle-même ne peut naître qu'à partir d'une affirmation positive, d'une réalité qui est. Et qui, parce qu'elle est en devenir, peut très bien ne pas être. Donc, vous voyez que si je mets l'hypothèse avant tout, je pourrais très bien dire que l'hypothèse engendre la négation. Et que au-delà de l'hypothèse, il y a l'affirmation. Mais que c'est ce qui est le plus lié à l'hypothèse, c'est la négation. L'hypothèse, je l'ai inventée. C'est moi qui l'invente. C'est moi qui pose une hypothèse. C'est moi qui pose une idée. Et c'est vrai que la négation est plus liée à l'hypothèse. L'affirmation. Du côté de l'hypothèse, la négation apparaît comme première. Le possible est par lui-même plus ordonné à la négation qu'à l'affirmation. Le possible, l'hypothèse, par lui-même. Parce que pour que la négation apparaisse, il n'y a pas besoin d'intervention d'autre chose. Alors que pour que le possible existe, il faut l'intervention d'un autre. Donc, dans l'immanence de la pensée, la négation est plus proche du possible, de l'hypothèse, que l'affirmation. D'où la négation est antérieure à l'affirmation. Vous voyez comment ça naît, c'est ça qui est très important à voir. Ça naît lorsque je mets le possible comme une donnée première. Je mets l'hypothèse comme une donnée première. Et quand je mets l'hypothèse comme une donnée première, la négativité apparaît comme première. Si la négativité apparaît comme première, la critique peut être première. C'est un fait hein, que la critique a été affirmée par Kant. Kant n'est pas un imbécile. Mais c'est un homme très systématique. Alors, lui dit la négation, la critique est antérieure. Comment peut-il arriver à dire ça? C'est parce qu'il met que l'hypothèse est une donnée première. Que l'idée est une donnée première. Si l'idée est avant la réalité, on arrivera nécessairement à dire que la négation est antérieure à l'affirmation. Et on arrivera à dire que la critique est antérieure à la métaphysique. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, pour pouvoir affirmer que la critique est antérieure à la métaphysique, ça prouve que je considère que la métaphysique repose sur l'idée, et non plus sur le jugement d'existence. Si la métaphysique repose sur l'idée, ce que Suarez disait, Suarez a dit ça, Suarez est au point de départ de la scolastique décadente. Pour Suarez, vous voyez, quelle date à peu près, hein, passage du 15e au 16e. Pour Suarez, l'idée est première. La métaphysique repose sur l'idée d'être. Et l'idée d'être est infinie et finie. Cette idée d'être va engendrer une métaphysique idéaliste qui va trouver son chef-d'œuvre dans Wolf. Kant l'absorbe et face à la physique contemporaine, à la science physique expérimentale, il dira ça ne tient pas. Parce que c'est prétendre que l'idée existe. Or, l'idée est premièrement négation d'existence. Donc, puisque l'idée n'existe pas. Donc l'idée en elle-même est négation d'existence. L'idée n'implique pas l'existence. C'est ça qui est quelque chose de juste. La critique de Kant est juste en face de Suarez, en face de Wolf. Mais ce n'est pas parce que la critique de Wolf J'ai une métaphysique qui repose sur l'idée. Ce que Kant lui-même refuse. Donc mettre la critique antérieure à la philosophie, c'est le serpent qui mord sa queue. Vous critiquez que la métaphysique repose sur l'idée, et vous prétendez que la critique est antérieure. Or, la critique ne peut être antérieure à la métaphysique que si la métaphysique repose sur l'idée. Or, vous avez critiqué la métaphysique qui repose sur l'idée. Mais non, mais c'est intéressant de voir comment, dans Kant, il y a une contradiction interne. C'est ça que je vous montrais. Pour affirmer que la critique est première. Et on a suivi Kant pour beaucoup de choses, du reste. Je pourrais vous donner, on verra quand on verra les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. On verra comment, aujourd'hui, les seules voies d'accès à l'égard de Dieu sont acceptées, c'est celle de Kant. Or, la voie d'accès par rapport à Dieu pour Kant est purement idéaliste. Donc, elle ne prouve rien du tout. C'est la conscience que j'ai de mon devoir qui prouve que Dieu existe. Dieu repose sur la conscience que j'ai du devoir. Et c'est ce que Kant, c'est ce que Nietzsche refusera en disant ça. Vous enlevez l'autonomie de l'homme dans la morale. Vous enlevez sa responsabilité. Puisque vous dites qu'il n'est responsable que si Dieu existe. Et donc vous oubliez qu'il y a une responsabilité morale propre.